BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
On est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h02. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts avec autour de la table Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, Thomas Grébine, économiste à Sciences Po, et Olivier Provost, directeur et associé de Rumeurs Publiques. On va partir à l'international, pas très loin, en Allemagne maintenant. L'Allemagne qui, à la veille du sommet de l'OTAN, a dévoilé, c'était hier, une trajectoire budgétaire qui prévoit, tenez-vous bien, quelques 600 milliards d'euros d'investissement dans la défense d'ici à 2030. Olivier Provost, c'est des questions que vous connaissez bien, hein, ces sujets d'industrie et de défense. L'Allemagne qui se réarme, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe ?
Alors, fondamentalement, oui, on n'est pas dans l'Allemagne des années 30, on est aujourd'hui. Alors, il y a un paradoxe quand même, hein, c'est que quand vous avez une industrie d'armement, c'est que vous avez à un moment une stratégie de défense.
Oui.
Aujourd'hui, la France a une stratégie de défense qui va même jusqu'à la dissuasion. Quelle est la stratégie de défense de l'Allemagne ?
Personne ne le sait pour l'instant.
Mais de même, parce qu'il n'y a pas non plus de stratégie de défense européenne. On l'a bien vu sur le dossier ukrainien. Oui. Donc, fondamentalement, cet effort-là, au service de quoi ? C'est la première question à se poser. La deuxième, quand même, c'est de se dire, ces 600 milliards, c'est le coût du rattrapage. L'Allemagne, sur l'industrie d'armement, a 20 ans de retard. Il y a des secteurs où elle est assez forte, l'industrie d'armement terrestre, et on le voit que dans l'Alliance...
Rheinmetall est quand même le géant européen.
Dans l'Alliance de KNDS, à un moment, oui. qui a marié notre... Fondamentalement, c'est eux qui ont la main. Mais vous prenez les avions de combat, et on vient de le voir avec le divorce sur le SCAF, honnêtement, aujourd'hui, l'Allemagne est incapable de concevoir un avion de combat. On peut se poser la question dans d'autres domaines. Le modèle des missiles, elle est membre de MBDA. Mmh. C'est Airbus, dont la partie Airbus Allemagne, qui est au sein de notre grand missilier européen, qui est une fantastique réussite à MBDA. Mais fondamentalement, l'Allemagne, elle a des avantages et elle a du retard à rattraper. Et il ne suffit pas de mettre de l'argent sur la table. Quand vous avez des technologies comme développées comme Dassault, à un moment sur les commandes de vol électrique d'un avion de combat, fondamentalement, c'est pas une affaire de milliards. C'est une affaire de savoir-faire et il faut 20, 30, 40 ans. Je parle même pas de la dissuasion nucléaire. Sur la dissuasion nucléaire, ça a été un effort français de centaines de milliards sur 50 ans. Ça ne se rattrape pas. L'Allemagne reste dépendante de la dissuasion nucléaire américaine. Je ne sais plus ce qu'elle vaut aujourd'hui.
Oui.
Et même sur les sujets du renseignement, alors on est un peu dépendant, mais ils sont complètement dépendants des satellites Kiel américains. Je rappelle juste que, de mémoire, le patron des services secrets allemands reste toujours, à un moment, nommé avec le coup de tampon de la CIA.
Et il était en Ukraine le jour de l'invasion par les Russes.
Voilà. Donc, oui, 600 milliards, mais 600 milliards pour faire quoi ? Si c'est pour renforcer leur savoir-faire dans certains domaines, type l'armement terrestre,
oui.
sur lequel il va falloir, nous, qu'on se raccroche, très bien. Si c'est un moment pour acquérir des technologies que nous, on a
concurrente.
Déjà... Que nous, on a déjà... Quel est l'objectif ?
C'est la question que j'allais poser, Thomas Grébine. Est-ce qu'on peut pas penser en européen ? Ils ont l'argent, on a la technologie, il y a peut-être des choses à faire ensemble. Alors, on voit que le SCAF, effectivement, l'avion de défense européen, conclu par un échec, mais ça pose encore une fois la question de la planification et de la stratégie européenne de souveraineté, tout ça.
Ouais, et puis des modèles industriels et militaires qui sont assez différents. Et là, la question, c'est pour la France. C'est-à-dire, on est toujours le deuxième exportateur mondial au niveau, enfin le deuxième exportateur mondial d'armes. Mais quand vous regardez au niveau européen, on n'est que le troisième, exportateur au niveau européen.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vend des armes, mais hors Union européenne.
Exactement. On est très loin des États-Unis et on est même dépassé par les Allemands. Donc, certes, on a une stratégie militaire qui, en grande partie, repose sur la dissuasion, mais c'est pas le modèle des autres pays européens. Et donc, c'est très difficile d'avoir une coordination sur ça. Et donc, ce qui fait aussi que quand on regarde les autres pays européens, il y a 30% des équipements, 30% des équipements militaires qui sont importés. Donc déjà, même quand les Allemands vont dépenser plus, il y a une grosse partie qui va bénéficier aux Américains. C'est 50% de ces importations qui viennent des États-Unis.
Ça, c'est un enjeu majeur quand même. Hein. C'est où va aller cet argent, effectivement ? Est-ce que ça va profiter à l'Europe ou est-ce que ça va partir aux États-Unis, Agnès Verdier-Molinier ?
Voilà, c'est un enjeu énorme. Hein. D'ailleurs, au niveau européen, ils ont dit maintenant, on veut produire nous-mêmes et s'acheter à nous-mêmes 65%.
Ah oui, c'est la préférence européenne, grand sujet en ce moment.
Du matériel militaire, mais ils partent de 78% d'importation. Donc là, il y a un truc qui va pas. Et par ailleurs, il faut pas du tout se leurrer. Les Allemands, ils sont en train de mettre énormément d'argent sur la table aussi. D'une certaine manière, c'est pour renflouer leur industrie, transformer leur industrie. Donc, ils veulent s'acheter à eux leur propre matériel militaire. Ils n'ont pas du tout envie de faire marcher la BITD française, la base industrielle française de défense. Ils veulent surtout faire fonctionner leurs propres usines, sachant qu'aujourd'hui, l'automobile ne va pas bien et que, justement, Rheinmetall, ils sont un peu dans les deux secteurs. Ils sont défense, mais aussi équipement pour l'automobile. Donc, on va voir en fait toute une bagarre entre la France et l'Allemagne sur ce sujet. La vision angéliste, c'est de dire finalement, l'argent des Allemands va aller financer la production industrielle de défense française.
C'est un peu ce qu'on s'était dit au moment de l'annonce du méga bazooka de 1000 milliards, 500 milliards d'infrastructures, 500 milliards de défense.
Ça c'est
un doux rêve, quoi. C'est comme le couple franco-allemand, ça n'existe qu'en français.
Vous savez, quand on refait l'histoire, quand on regarde ce qui s'est passé sur le nucléaire, est-ce que les Allemands nous ont soutenus, nous ont aidés, nous ont poussés finalement à être excellents dans le nucléaire? Non, ils nous ont mis des bâtons dans les roues pour nous empêcher justement de nous développer. Ils nous ont incités à fermer des centrales, etc., etc. Donc, je crois qu'en fait, il y a une compétition économique et que si on ne met pas en place des règles pour justement faire en sorte que on nous commande à nous, parce qu'on a une industrie de défense exceptionnelle entre Dassault, MBDA qui est pas que français,
Thales,
on a des champions
Naval Group
qui est extraordinaire, qui a eu en fait en plus des commandes exceptionnelles ces derniers temps. Donc on a des atouts français et c'est un des seuls secteurs où on a aujourd'hui des atouts formidables. Donc là il y a un sujet. Moi, j'aurais voulu aussi revenir sur l'histoire du frein à l'endettement allemand, parce que pourquoi est-ce qu'il y a eu un sous-investissement aussi dans la défense en Allemagne? C'est aussi lié au frein à l'endettement.
Schwarz-Null.
Et au fait que finalement, ils n'ont pas tellement sanctuarisé leurs investissements, même si en réalité, ils n'ont pas beaucoup moins investi que la France. En fait, nous, on dépense beaucoup, mais on n'investit pas beaucoup non plus. Faut être honnête aussi quand on regarde les chiffres et les comparaisons internationales. Mais ce frein à l'endettement, là, ils l'ont desserré sur la défense. Et c'est quand même très intéressant parce que dans la campagne 2027, on va parler du frein à l'endettement, de la règle d'or pour la France.
Oui, absolument.
Il y a une grande majorité de nos concitoyens. Il y a autour de 78% des Français qui sont pour l'application d'une règle d'or.
Une règle d'or, on le rappelle, c'est de contraindre le législateur, nos députés, nos sénateurs, à voter un budget à l'équilibre. Vous n'avez plus le droit de faire de déficit.
Et alors, les Allemands, quand
avec
ils ont
les dépenses
mis
de fonctionnement
frein à l'endettement en place, ça a été incroyable parce qu'en 3 ans, ils étaient dans les cordes du 0,35 maximum du PIB d'endettement par an. Nous, on est en train de faire tous les travaux d'alignement là, à la Fondation pour voir combien de temps ça nous prendrait, la phase de qualification, etc., sans augmenter les impôts, en ajustant en dépenses, etc., etc., en sanctuarisant justement les dépenses de défense. Eh bien, c'est extrêmement long, c'est extrêmement difficile et ça veut dire que...
C'est quoi, c'est 5 ans, 10 ans?
On
parle de 120, 150 milliards d'économies.
En fait, il y a toute une période avant d'être à 0,35. Si on se dit, on fait comme les Allemands, on se met 0,35 maximum du PIB d'endettement nouveau par an dans les périodes qui ne sont pas des périodes de récession, de crise grave, etc. On est plutôt à 2034-2035 pour arriver à la période...
Moins de 10 ans pour revenir à l'équilibre.
À la fin de période de qualification.
Ah oui.
Et ensuite, on passe au 0,35. Donc, on est quand même sur cette question du frein à l'endettement et de la règle d'or. Je trouve qu'aujourd'hui, les candidats à la présidentielle, d'ailleurs, Édouard Philippe, il en a quasiment pas parlé dans son discours de dimanche, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on explique bien les choses aux Français? La situation dans laquelle on est et comment on va faire pour atterrir? Parce que, le narratif sur comment ça va fonctionner, comment on atterrit sur une règle d'or, comment on respecte nos engagements, etc.
Donc vous demandez des précisions sur les voies et moyens d'imposer cette règle d'or, quoi. Il suffit pas de la décréter, mais comment on y arrive et quelles sont les conséquences?
D'être assis sur son siège et de dire on va faire la règle d'or et de pas aller plus loin.
Alors que 10 ans, c'est pas si long.
Thomas Grébin.
Bon, deux points. Bon, d'une part, je suis pas sûr que même en France, la règle d'or, ça fonctionnerait. On avait le traité de Maastricht.
On l'a jamais respecté.
Ouais, et puis sur la sécurité sociale, on n'est pas censé normalement faire des déficits. Là, de nouveau, on a presque 20 milliards de déficits structurels. Juste sur l'Allemagne, ce qui me semble quand même intéressant, c'est quand même le changement de logiciel depuis quelques mois en Allemagne. Donc, il y a évidemment cette question du frein à l'endettement.
C'est tout le modèle économique qui est...
Il y a cette question de l'augmentation spectaculaire des dépenses militaires. Et puis, la semaine dernière, dans le document, les propositions publiées par le chancelier, vous voyez aussi au niveau international. C'est-à-dire que maintenant, l'Allemagne soutient des clauses de contenu local, c'est-à-dire de la préférence européenne.
Oui.
Ils soutiennent le fait qu'il faut diriger la commande publique et même ils soutiennent la proposition française de mettre des droits de douane sur des secteurs entiers. Donc ça encore, c'était inimaginable en Allemagne il y a quelques mois et on voit bien que sur plein de sujets, en fait, l'Allemagne est en train de se réveiller.
Ça avance, oui.
On verra si en pratique les choses changent vraiment, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez spectaculaire qui se passe, quoi.
Bon, Olivier.
Juste une idée totalement iconoclaste qui va vous faire sourire. Moi, je pense que la seule chose que la France peut à un moment monnayer au niveau européen, c'est sa force de dissuasion.
Ah oui, c'est son parapluie si nucléaire, bien sûr.
Si on tire le fil, si Trump lâche, si il va annoncer une réduction des troupes américaines d'au moins 10 000 hommes, hein,
oui.
Il va l'annoncer.
Sur le sol européen.
Voilà. Si à un moment il lâche ça et que les Européens se disent il nous faut un parapluie nucléaire, le seul qui est capable de nous l'offrir, parce qu'on est capable de l'offrir,
et la Grande-Bretagne.
C'est la France. La question, oui, c'est quel est le prix de ça ? Et le prix de ça, à un moment, c'est peut-être la seule arme qu'on puisse avoir, compte tenu de la dérive de nos déficits, où à un moment, on peut récupérer de l'argent de nos alliés ou récupérer un peu de mansuétude sur nos déficits, si on arrive à un moment à étendre ça. Ça n'est pas facile, comme je disais, c'est un peu iconoclaste comme idée, mais je pense que la France, ça fait sourire Agnès, mais je pense que la France a un coup à jouer, parce que c'est quasiment avec l'énergie, la seule arme dont on dispose, où on peut aller parler à nos partenaires en disant, je mets ça sur la table, vous mettez quoi en face ?
C'est pas évident que dans les nouvelles formes de guerre, les Européens soient si sensibles à la dissuasion nucléaire.
Avec la Russie ?
On voit bien qu'en Ukraine, par exemple, qui a réussi à développer une base industrielle, c'est plutôt sur une forme d'agilité, notamment sur les drones. Et donc, je ne sais pas si on discutait tout à l'heure.
Il y aura les deux.
Quel est le modèle stratégique de l'Allemagne ?
Il y aura un modèle où vous aurez des drones légers, pas chers, sur le terrain. Et vous faudra aussi avoir un parapluie nucléaire au cas où, à un moment, ça dégénère. Et Poutine a brandi plusieurs fois la menace nucléaire. Donc, à un moment, avoir une force de dissuasion, ce n'est pas neutre.
Non, mais sur la dissuasion, je pense qu'il faut se réjouir d'avoir gardé cette dissuasion. C'est formidable et ça nous donne une indépendance en France qui est exceptionnelle. Après, la dissuasion, elle repose aussi un peu sur le nombre d'ogives. Alors, ça fait un peu combien t'en as, mais quand même, on voit que la Chine est en train de se doter d'un nombre d'ogives incroyable, qu'ils ont multiplié le nombre d'ogives et qu'ils vont encore continuer à multiplier le nombre, ils vont arriver autour des 600. Nous, on est autour de 290. Quand le président de la République est intervenu sur l'île Longue, sur ce sujet, il a dit quoi ? Il a dit maintenant, on ne communiquera plus sur le nombre d'ogives.
Oui.
Moi, je suis partagée sur ce positionnement, parce que si on veut se positionner justement comme un pays qui permet d'avoir un parapluie, un petit parapluie peut-être, hein, parce que quand même, les États-Unis, c'est un gros parapluie. Hein, nous, on... petit parapluie. Et si le petit parapluie, on ne connaît pas trop la taille du parapluie et qu'on ne sait pas comment exactement, dans quel état il est...
Ça fait partie de l'ambiguïté stratégique en même temps.
Je trouve que même si on a des super sous-marins lanceurs d'engins, ça ne remet pas du tout ça en question, il y a quand même des questions à se poser sur finalement la taille critique de la dissuasion française. Et ça, certains balaient ce sujet du revers de main, sauf qu'en réalité, tous ceux qui s'arment, ils s'arment avec un nombre d'ogives qui est absolument colossal aujourd'hui. Et je voudrais revenir quand même sur le sujet allemand et sur le sujet budgétaire allemand. Ils ont dit effectivement les 600 milliards en défense, etc. Ils ont créé en fait un énorme coup de canif sur leur frein à l'endettement, mais ils ont dit aussi qu'ils voulaient résorber entièrement leur déficit de 34 milliards d'euros prévu pour 2027 et comment ils vont supprimer la retraite anticipée à 63 ans, resserrer les règles d'arrêt maladie et donc ils vont continuer à rogner en fait sur le modèle social pour financer la défense. Nous, il est où le rognage sur le modèle social ? Pour l'instant, on ne le voit pas du tout. Hein, vous l'avez très bien exprimé tout à l'heure. C'est là où il y a le point de fuite de nos dépenses. Et tout en disant, nous, la France, on veut se réarmer aussi plus, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer la situation de nos équipements en défense aujourd'hui en France. Il y a énormément d'investissements à faire dans les prochaines années. On a, ce que disent ceux qui connaissent le sujet, on a une armée échantillonnaire. Hein, et on ne tient pas longtemps dans une guerre de haute intensité. Donc, à un moment, il faut aussi que nous, on ne regarde pas que le sujet qui nous intéresse. Oui, les Allemands, ils sont en train d'assouplir leurs règles d'or. Mais ils vont visser à mort leurs dépenses sociales. Mais oui. Et ça, qui en parle ? Pas tellement, on n'en parle pas tellement.
BFM Business, quasiment quotidiennement, chère Agnès Verdier-Molinier. Écoutez l'antenne, vous verrez. Bon, il se passe dans la défense, ce qui se passe dans le numérique, c'est qu'on est sur la montée des empires et que l'Europe est en retard, comme elle est sur le numérique, sur la robotique et sur tant de sujets. Cette information simplement qui vient de tomber, l'urgent de l'AFP, deux explosions, deux bombes sont tombées à proximité de l'hôtel où se trouve le président français, qui est sain et sauf et poursuit sa visite en Syrie, assure à l'instant l'Élysée. Il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble. Je voulais qu'on passe à ce dernier sujet sur l'IA chinoise. L'IA, toutes les entreprises sont en train de tester le retour sur investissement en quelque sorte. Et on entend de plus en plus de voix de chefs d'entreprise nous expliquer que quand même, certaines coûtent extrêmement cher pour des services pas toujours faciles. Bah oui, sauf qu'il y a une alternative. C'est l'alternative chinoise qui arrive et qui, comme le reste, est souvent bien moins chère et tout aussi, voire davantage, plus performante que certains modèle. Est-ce qu'il faut confier, il y a un papier passionnant dans les Échos hein, aujourd'hui, à un moment, il faut faire un arbitrage de coûts, ces entreprises qui utilisent déjà des modèles d'IA chinois. Longtemps, le sujet a été tabou. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui, Olivier Provost.
Alors, c'est marrant que vous ayez mis ce sujet à l'heure du jour, Raphaël, parce que j'ai dîné hier soir avec un grand patron français, on a parlé de ça. Et lui m'a dit, il ne le dit pas publiquement, hein, bien sûr, j'utilise de l'IA chinoise. Il utilise Anthropic, hein, il utilise Claude, mais il utilise aussi de l'IA chinoise. Et il dit, fondamentalement, dès lors que j'arrive quand même avec des systèmes de firewall à protéger un certain nombre de données confidentielles, mais je sais que...
Il pense vraiment pouvoir protéger ces données...
Alors, il ne met pas tout dans l'IA chinoise, mais fondamentalement...
Et je parle d'Anthropic comme des chefs des Américains, comme des Chinois, d'ailleurs, hein, faut être très clair.
Mais
hein.
Fondamentalement, ce qu'il me dit, c'est... Évidemment, je lui dis, mais pourquoi tu ne travailles pas avec Mistral? Et il dit, mais moi je discute avec Mistral, mais encore faut-il à un moment que Mistral ait envie de bosser avec moi et la bande passante pour le faire. Donc il dit, fondamentalement, dès que Mistral sera prêt, je fonce, mais en attendant, il faut bien que je développe ma boîte. Je ne vais pas me dire, je ne fais pas du tout d'IA, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas à un moment un partenaire français. Et dans ce cas-là, en fait, il a la thèse qui est bien expliquée dans le papier que vous citiez, de je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Et donc à un moment, je fais un peu d'Anthropic et je fais un peu d'IA, avec l'avantage de l'IA quand même, c'est la sobriété. Ils ont développé, on pense à DeepSync, etc. Oui. Ils ont développé des modèles d'IA qui sont, en termes de tokens, hein, qui sont infiniment moins
plus sobres, absolument,
infiniment moins coûteux que les modèles américains.
Et oui, Thomas Grémin.
Ce qui est intéressant dans ce débat, c'était qu'il y a quelques mois, on parlait de la puissance extraordinaire que permet l'IA, et il y avait cette course à la puissance, et puis là, on est revenu un plus à un discours qu'on pouvait avoir il y a quelques années, c'est-à-dire minimiser les coûts. Et peut-être qu'on va vivre dans quelques mois ce qu'on a vécu pendant longtemps sur l'industrie, c'est-à-dire on a donné la priorité au moindre coût, le fait qu'on produisait en Chine parce que ça permettait évidemment des gains de pouvoir d'achat à court terme pour le consommateur. Et on voit bien la tentation de reproduire ce discours pour l'IA chinoise. Ah, parce que c'est vrai que l'IA chinoise est en train de rattraper les meilleurs modèles américains. On voit que l'écart n'est plus si important avec des coûts. Alors certains disent... C'est 10% moins fort technologiquement, mais c'est 10 fois moins cher. Et donc, on voit bien qu'il y a une tentation, y compris, c'est ça qui est impressionnant, pour des multinationales anglo-saxonnes, que ce soit Airbnb, que ce soit Uber Eats, de s'attacher les services d'IA chinoise. Et donc là, il y a quand même un débat stratégique qui va se poser. Est-ce qu'on va de nouveau faire le choix du moindre coût, qui peut très bien s'expliquer vu l'augmentation, l'explosion des coûts qui sont liés à l'IA, mais avec des enjeux géostratégiques majeurs. Et vous avez parlé de Mistral, ce qu'il faut voir, c'est que malheureusement, dans les usages au niveau mondial, la part de Mistral ne fait que baisser depuis quelques mois. Quoi.
Et oui, et qui arrive, on en parlait sur ce plateau, en 54e rang aujourd'hui des IA internationales. Agnès Verdier-Molinier, même question, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA chinoise ou est-ce que de facto elle est là, aussi efficace, 5 à 10 fois moins chère? Et en open source?
C'est dommage, mais on ne peut pas ne pas comprendre les chefs d'entreprise et tous ceux qui ont à gérer des structures aujourd'hui, qu'elles soient entreprises ou fondations comme nous, par exemple. Évidemment, on essaie toutes les IA, on essaie de faire des arbitrages entre les unes et les autres, on regarde les prix, on regarde la puissance et on regarde le rendu du travail pour voir quelle est la meilleure qualité. Et évidemment, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit... qu'on a beaucoup de gâchis, en fait, en Europe sur ce sujet. Je ne vais pas revenir aux années très, très antérieures, mais quand même, au début des années 2000, nous, à la Fondation IFRAP, on allait voir beaucoup de parlementaires, de décideurs, en leur disant « Attention, les États-Unis sont en train de faire une révolution, ils financent énormément des start-up de l'Internet, qui vont faire des choses incroyables, ça a donné les GAFAM ». Et ces GAFAM, ils font de l'IA. Et en fait, à l'époque, on nous regardait avec des grands yeux en disant « Mais pourquoi est-ce qu'il faut des business angels? Pourquoi est-ce qu'il faut financer les startups? Pourquoi est-ce qu'il faut des entreprises à fort potentiel de croissance ?» Et en fait, le débat en France, c'était toujours « Oh là là, vous allez aggraver les inégalités. » C'est ça le problème. C'est ouais. qu'en fait, on n'est pas capable de comprendre qu'il faut mettre du capital pour financer des boîtes, pour être dans la compétition internationale. Et vous pouvez reprendre tous les travaux de la Fondation IFRAP sur ces sujets, start-up, entreprises de croissance. On avait montré la vitesse ascensionnelle sur le nombre d'emplois créés en fonction du capital qui était investi au démarrage. On avait proposé des mesures d'investissement, de déduction d'ISF, d'IR pour pouvoir investir dans des sociétés.
Ah oui, on paye le prix, évidemment.
Non, mais c'est grave parce que on n'est pas capable d'avoir une fiscalité qui est pro-entrepreneuriale. Alors, je parle surtout de la France, mais en Europe. Globalement, c'est pas très éloigné. On n'a pas de capitalisation pour les retraites. Résultat, on n'a pas financé les boîtes de l'internet, de la tech, etc. Et derrière, et de l'IA. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on se fait manger par les Américains et par les Chinois. Et ensuite, on dit, oh là là, on n'a pas vu le coup venir. Bah, je suis désolée, il y a quand même beaucoup de gens qui ont alerté. Et en France, on n'écoute pas les lanceurs d'alerte.
Vieux mythe français du capitalisme sans capital.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois.
L'entreprise à 1 euro.
Agnès Verdier-Molinier.
Qu'est-ce que ça donne l'entreprise à 1 euro? Eh ben,
Thomas
ça donne
Gabine.
Rien. Voilà.
Et Olivier Provost pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay.